Bonjour à chacun. Merci Patrice pour ta prière et pour tout ce que tu nous as partagé. Et vraiment, je remercie Dieu pour de la manière comment il conduit des fois nos cultes. Et vous allez voir que ce matin, Dieu a bien conduit le culte au travers de nos prières, des chants que nous avons choisis. Et j'espère que maintenant, nous sommes encore prêts à l'adorer en écoutant sa parole, la Bible. Est-ce que vous savez ce qui aura lieu le 10 juin à 21h ? 10 juin à 21h. Hélène ? Ah voilà. France, Roumanie. Et ça marque vraiment le début du championnat d'Europe UEFA de football masculin qu'on appelle l'Euro 2016. Nous verrons donc dans quelques jours les meilleures équipes européennes masculines. Ces équipes sont super bien encadrées. Les joueurs sont préparés physiquement et émotionnellement pour des matchs qui donneront de la joie ou de la tristesse au pays que ces équipes représentent. Ma petite expérience de footballeur me permet de dire que les meilleures équipes du monde sont à l'écoute de leur coach pour savoir quelle tactique ou quelle stratégie il faut appliquer pour gagner. Le temps à l'écoute du coach est vraiment important. Ces temps à l'écoute du coach sont vraiment importants. Ils ont un véritable impact sur le terrain de foot. Ils ont un véritable impact sur la manière comment chaque joueur joue. Ce matin, nous allons ouvrir la Bible pour laisser Dieu nous parler. Et nous allons voir que son message peut avoir un impact sur nos vies. Son message nous pousse à vivre une vie totalement consacrée à son service. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, Dieu parle. Et si nous l'écoutons réellement, nos vies seront forcément transformées. Le cœur même de la foi chrétienne, Patrice l'a expliqué. Jésus a été crucifié pour des hommes et des femmes qui méritent la mort physique, mais surtout la mort éternelle. Quelle doit être notre réponse à ce sacrifice de Jésus pour notre pardon éternel? Quelle doit être notre réponse à ce sacrifice de Jésus à la croix pour notre pardon éternel? Nous allons lire Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Et Romains chapitre 12, versets 1 à 2 nous montre que l'Évangile, le message central de toute la Bible, n'est pas seulement un ensemble de connaissances à croire, mais également un ensemble d'applications, d'implications pratiques dans nos vies. L'Évangile se vit. Le sacrifice de Jésus nous encourage à offrir nos corps en sacrifice. C'est ce que nous allons voir avec Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je prends une petite pause, je bois de l'eau. Le texte commence, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. » C'est quoi les compassions de Dieu? Pour bien comprendre le chapitre 12 de Romains, nous devons nous intéresser aux premiers 11 chapitres de Romains. Et c'est bien que John ait pris Romains 11 pour nous encourager à louer Dieu. Pour vraiment comprendre Romains 12, nous devons nous intéresser à tout ce qu'il y a avant. Nous devons nous intéresser au destinataire de cette lettre et à son auteur. Commençons par l'auteur. Romains 1, chapitre 1, c'est écrit « De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » L'auteur, il n'y a aucun doute. C'est Paul qui est un apôtre. Et les apôtres, ils ont posé le fondement universel pour l'Église universelle. Ils ont posé les fondements pour l'Église universelle, comme nous pouvons le voir dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Comment est-ce qu'ils ont posé les fondements pour l'Église universelle ? Par des écrits, comme la lettre aux Romains que nous avons entre nos mains et qui a environ 2000 ans. Dieu a donné à Paul un cœur pour l'annonce de l'Évangile, la bonne nouvelle. Paul était un homme qui voulait aller toujours plus loin avec l'Évangile. Il voulait parler de Christ, là où personne n'avait entendu parler de lui. Il voulait des églises, il voulait des responsables d'église, là où il n'y avait aucun témoignage chrétien. Paul dit au chapitre 15, à partir du milieu du verset 19 jusqu'au verset 21, voilà ce qu'il dit, « Depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas construire sur les fondations posées par un autre. Mais comme il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est aussi ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous, mais maintenant, comme je n'ai plus rien qui me retienne dans ces régions et que depuis bien des années j'ai le vif désir de vous rendre visite, je le ferai quand je me rendrai en Espagne. J'espère en effet vous voir en passant et recevoir votre aide pour me rendre là-bas une fois que j'aurai satisfait, du moins en partie, mon désir d'être avec vous. » Paul, au moment où il écrit cette lettre, il a un projet en tête, annoncer l'évangile en Espagne. Et pour lui, Rome sera une étape de son voyage vers l'Espagne. Voilà son projet. Une des raisons qui a donc poussé Paul à écrire cette lettre est sûrement de préparer les destinataires de cette lettre à sa visite et à sa demande, probablement une demande d'aide matérielle pour aller annoncer l'évangile en Espagne. Paul était un homme avec une mission claire, annoncer l'évangile. Et c'est ce qu'il fait pendant les 11 premiers chapitres de cette lettre aux Romains avant de leur montrer les implications pratiques que cela peut avoir dans la vie des disciples de Jésus. Selon Luther, le réformateur du XVIe siècle, de la réforme donc protestante au XVIe siècle, dont Luther est un homme que Dieu a utilisé, voilà ce qu'il dit sur l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, c'est l'Évangile sous sa forme la plus pure. L'Évangile sous sa forme la plus pure. Les compassions de Dieu que Paul mentionne au chapitre 12, ici, sont développées du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Les compassions de Dieu sont tout ce que Dieu nous donne et que nous ne méritons pas. Sans rentrer dans les détails, nous voyons dans cette lettre que les hommes sont dans une situation tragique. Nous sommes tous condamnables devant Dieu. Aucun de nous n'a d'excuses. Nous méritons une seule et unique chose, la condamnation éternelle en enfer. Au chapitre 1, versets 20 et 21, nous pouvons lire « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusable. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Dans cette lettre, Paul montre que seul Dieu peut changer cette situation tragique et il l'a fait en offrant, par le sacrifice de son Fils à la croix, un moyen pour chacun de nous de devenir juste devant lui. Un peu plus loin, Romains 3, versets 21 à 26, nous pouvons lire « Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. » Patrice l'a très bien montré avec Éphésiens 2. Ici, nous voyons la même chose. Nous sommes déclarés justes par la foi dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. C'est dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus que nous voyons véritablement les compassions de Dieu pour des hommes comme moi et vous, pécheurs. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle qui dit que Dieu veut justifier des hommes et des femmes pécheurs par un message de transformation. Ce message de transformation, c'est l'Évangile. Après une démonstration, une présentation magistrale de ce qu'est l'Évangile en 11 chapitres, le 12e chapitre de l'Épître aux Romains commence par montrer que cet Évangile n'est pas seulement un ensemble de connaissances qu'il faut croire, mais également un ensemble d'applications, d'implications pratiques pour nos vies. L'Évangile est un message théologique du début jusqu'à la fin, mais l'Évangile est aussi pratique de A jusqu'à Z. La foi en Christ est accompagnée, doit toujours s'accompagner par une vie transformée. Et pour reprendre les mots de Paul, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera, de votre part, un culte raisonnable. Paul est en train de dire que nous devons être totalement et continuellement consacrés à Dieu. C'est ce qu'il veut dire par offrir nos corps en sacrifice et culte raisonnable. Aujourd'hui, nous ne devons plus offrir des sacrifices d'animaux comme c'était le cas à une certaine période de l'histoire, que nous pouvons lire dans le début de la Bible. Ces sacrifices étaient juste une pédagogie de Dieu qui annonçait le sacrifice ultime de Jésus pour des pécheurs comme nous. Une fois que nous avons accepté ce sacrifice, le sacrifice de Jésus, le seul et unique sacrifice que Dieu veut, c'est notre vie pour une adoration en continu. Frères et sœurs, le culte n'est pas juste le dimanche. Le culte, c'est toute la semaine. Au travail, à l'école, à la maison, partout, nous devons rendre un culte à Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous ne venons pas au culte. Notre vie doit être totalement un culte en continu. Tout dans notre vie doit glorifier Dieu. Si nous lui avons offert notre vie ne nous appartient plus. Romains 14, versets 4 à 9 nous dit « En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. » L'Évangile se vit. Comment ? Par une consécration totale et en continu de nos vies à Dieu. Comment est-ce que nous pouvons vraiment vivre une consécration totale et en continu pour le service de Dieu? Eh bien, il faut que nous relisons ensemble le verset 2. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » pour vivre une consécration totale et en continu. Il faut donc ne pas se conformer au monde et être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Commençons par le premier point. Que veut dire ne pas se conformer au monde ? Nous vivons bien dans ce monde et nous ne pouvons pas partir sur une autre planète. Vous êtes d'accord avec moi ? Comme moi, vous appréciez sûrement de bonnes choses dans la culture française. Qu'est-ce qu'il y a de mal à boire un bon vin et manger du fromage ? Comme disait Mathieu Giralt pendant une prédication il y a quelque temps, il est possible de manger une bonne crêpe au Nutella pour la gloire de Dieu. Et c'est juste magnifique. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, il m'est déjà arrivé de tomber dans un piège qui est celui de l'isolement du monde. De m'isoler d'amis précieux et de plein de bonnes choses en comprenant mal ce que la Bible veut dire ici par le mot « monde » et à bien d'autres endroits. Le monde ici sont toutes les pensées, toutes les philosophies, les manières de vivre qui ne glorifient pas Dieu dans ce monde. L'isolement et l'assimilation sont deux pièges terribles dans lesquels nous, en tant que chrétiens, pouvons tomber facilement si nous ne comprenons pas ce que veut dire ce texte. Nous vivons dans l'isolement si nous ne souhaitons pas avoir de relations avec les gens du monde parce que ce sont des pécheurs qui peuvent nous influencer. Nous vivons dans l'isolement si la compagnie des gens du monde nous est difficilement supportable. Nous vivons dans l'isolement si nous préférons être avec des chrétiens, si nous considérons le culte, comme ce matin, les réunions de prière et de louange, les réunions de quartier, les séminaires et les conférences comme les meilleurs moyens de nous protéger du monde. Alors, nous sommes en train de vivre isolés du monde, et ce n'est pas ce que Dieu nous demande ici. Malheureusement, et à ma honte, je dois vous le dire, j'ai déjà vécu comme ça, mais je ne veux plus que cela se reproduise. Ce n'est pas ce que Dieu demande ici. L'assimilation est le contraire de l'isolement. C'est vivre de façon contraire aux valeurs chrétiennes et devenir totalement comme les gens du monde. Nous pensons comme eux, nous parlons comme eux et nous nous comportons comme eux. Bref, en gros, nous sommes totalement comme eux. Il n'y a plus aucune différence entre nous et eux. Comment est-ce que Dieu nous appelle réellement à vivre dans ce monde ? On aime bien dire des choses, il faut vivre dans le monde sans être du monde. Mais ça veut dire quoi ? Il faut apprécier la culture et même nous y adapter. Nous nous adaptons à la culture. Nous nous adaptons aux gens qui sont en face de nous. Nous devons apprécier la culture et même nous adapter à la culture. Mais il faut aussi la remettre en question. Il faut aussi la critiquer, cette culture. La culture française est au bénéfice de la grâce de Dieu. La culture française est au bénéfice de la bénédiction de Dieu. Il y a des très bonnes choses, mais il y a aussi des très mauvaises choses parce que nous vivons dans un monde qui est rempli de péchés partout. Dieu nous demande du discernement. Nous ne pouvons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et la meilleure manière de le faire est de mettre en pratique ce que nous allons voir maintenant. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour vivre la volonté morale de Dieu. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour vivre la volonté morale de Dieu. Dans ma vie, je constate une chose, et Patrice a dit exactement la même chose. Les bonnes résolutions, c'est bien, mais je suis incapable de me changer tout seul. Pour vivre la vie que Dieu veut que je vive, notre volonté, ma volonté, est importante, mais elle n'est pas suffisante. Notre consécration est le fruit de notre volonté, mais aussi et surtout le fruit de l'action de Dieu dans nos vies. Pour vivre une consécration totale et en continu pour le service de Dieu, nous devons changer notre manière de penser. Si notre manière de penser change, notre comportement changera forcément. Un proverbe dit « Sème une pensée, tu récolteras un acte. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. » Nos actes, notre vie sont influencés par nos pensées. Pour changer notre manière de penser, nous devons toujours mieux connaître l'Évangile. Pour mieux le connaître, nous avons la Bible et le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même et qui habite en nous. Pour mieux connaître l'Évangile, bien sûr que nous pouvons lire la Bible. Nous avons aujourd'hui cette bénédiction en France de pouvoir en avoir même plusieurs dans nos maisons. Cela n'a pas été le cas du tout des chrétiens en France dans l'histoire. Et ce n'est pas du tout le cas de beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde. Nous avons plusieurs Bibles sûrement chez nous. Nous devons les lire. Lire la Bible, mémoriser des versets, étudier des textes en profondeur, se prêcher la Bible à soi-même. J'en ai besoin des fois. Des fois, j'ai besoin de me dire, Ricardo, Dieu t'aime. Sois dans la joie, t'es son enfant. Tu n'es plus condamné, mais pardonné pour toujours. Vis pour lui. Prêcher la Bible à soi-même, nous rappeler des vérités de Dieu. Nous pouvons également écouter la Bible. Et il y a des sites et des applications mobiles aujourd'hui où nous pouvons écouter un frère ou une sœur en train de nous lire la Bible pour nous. Nous pouvons bien sûr échanger sur la Bible avec un frère ou une sœur. Nous pouvons chanter et écouter des chants remplis de l'Évangile. Nous pouvons lire de bons livres et de bons blogs chrétiens. Nous pouvons écouter des enseignements et des prédications de qualité. Les moyens ne manquent pas aujourd'hui pour mieux connaître l'Évangile. Nous devons juste décider de nous arrêter pour écouter Dieu. Paul, après avoir expliqué l'Évangile en profondeur, encourage les Romains à vivre pour Dieu. Je me permets aussi ce matin d'encourager tous ceux qui viennent dans nos réunions, mais qui n'ont pas encore décidé d'accepter Jésus et de témoigner publiquement par le baptême qu'ils sont bien chrétiens. Je t'encourage à réfléchir à la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Aujourd'hui encore, Dieu te donne cette possibilité d'accepter son plein pardon pour aujourd'hui, d'avoir une nouvelle vie à partir de maintenant et d'avoir une grande espérance pour demain. Es-tu prêt à dire non à quelque chose de bon ? Pour dire oui à quelque chose de meilleur. Es-tu prêt à dire non au péché, à cette situation tragique que la Bible nous décrit, à ta condamnation éternelle, pour dire oui à Jésus ? Pour dire oui à Jésus, à ce qu'il a fait à la croix, pour dire oui à Jésus à lui-même, à son pardon, à sa joie, à sa paix. C'est ça ce qu'il y a de beaucoup de meilleur. Es-tu accepté à l'avoir au quotidien à tes côtés pour t'aider malgré tout ce qui peut t'arriver dans ce monde, la maladie, la persécution et bien d'autres choses. Ce choix est le choix le plus important de ta vie. Il influencera le reste de tes jours. Et surtout, ta destinée éternelle. Ta vie pour toujours, en enfer ou au paradis. Et pour nous qui sommes chrétiens, voici quelques questions que je me suis posées pour examiner mon cœur. Est-ce que je vis pour Dieu en étant motivé par l'Évangile ? Est-ce que je réponds au sacrifice de Christ par le sacrifice de ma vie ? Est-ce que j'annonce et je vis le message de transformation qui est l'Évangile ? Paul vivait pour annoncer l'Évangile et sa consécration à Dieu était motivée par l'Évangile. Pour terminer, je lis Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Les vrais disciples de Jésus vivent une consécration totale et en continu à Dieu, en discernant ce qui est la volonté de Dieu grâce à une connaissance de plus en plus profonde de ce qu'est l'Évangile. Si notre cœur n'est pas enflammé pour Jésus et pour son message, il ne faut pas s'attendre à ce que nos vies soient transformées et encore moins le monde qui nous entoure. L'Évangile n'est pas juste un ensemble de connaissances à acquérir. L'Évangile est un message de transformation. Un message de transformation qu'on croit. Il doit transformer nos pensées. Il doit transformer nos paroles. Il doit transformer nos actes. L'Évangile est donc un message qui se vit. Que nous soyons des hommes et des femmes qui abandonnent totalement leur vie pour Dieu. Que nous soyons des hommes et des femmes qui vivent totalement pour Dieu, pour que cette ville de Grenoble connaisse véritablement Jésus. Et prions que parmi nous, il y ait des Pauls qui se lèvent, des Pauls de notre génération, qui vont annoncer l'Évangile dans des villes et même des pays un peu plus loin où il n'y a aucun témoignage chrétien. Amen. Je vous invite à un temps de réflexion. Et après ce temps, je vous invite à chanter un chant. Je te donne tout. Donc je vous invite vraiment à prier. J'affiche ici un petit peu ce que j'ai essayé de dire et qui découle, je le crois, totalement de ce texte de Romains 12. Le sacrifice de Jésus nous encourage à offrir nos corps en sacrifice. Le sacrifice, c'est une vie totalement consacrée à Dieu. Et pour le vivre, il ne faut pas se conformer au monde et être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Que chacun de nous puisse prier et demander à Dieu de vivre cette vie.